Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Le Fonds monétaire international, FMI en sigle, promet de décaisser la somme d'un milliard et demi en termes d'appui aux réserves d'échange à la République démocratique du Congo. Annonce faite hier mercredi par la directrice générale de cette institution de Bretton Woods à l'issue des rencontres qu'elle a eues premièrement avec le Premier ministre Sam Alufo-Ndé et le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi à la Cité de l'Union africaine. Kristalina Georgieva a précisé que ce n'est pas une dette mais plutôt un appui qui est apporté dans le cadre du renforcement des réserves en devise du pays. Elle a reconnu que le programme du FMI en RDC a progressé très bien. L'équipe économique du gouvernement a travaillé avec nous avec un objectif commun de renforcer l'économie pour le peuple de la RDC, a-t-elle déclaré. Que pensez-vous de cette promesse du FMI et quelles pourraient en être les conséquences sur les sociales des Congolais? C'est à ces questions que nous allons tenter de répondre ce soir. Et nous recevons Alki Tengue, il est analyste économique et stratège. Bonsoir, monsieur Alki Tengue. Bonsoir, monsieur Alki Tengue. Apparemment, il n'est pas encore là. Victor Nzouzi, paysan et membre du réseau international pour l'abolition de la dette illégitime. Bonsoir, monsieur Victor Nzouzi.
Bonsoir, et bonsoir à tous les auditeurs et auditrices de la radio Kati.
Et Fabrice Ngabo, chercheur et consultant en fiscalité et finance. Bonsoir, monsieur Fabrice Ngabo.
Bonsoir, monsieur le journaliste.
Bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Nous le disions dans le sommaire, la RDC bénéficiera tout prochainement de 1,5 milliard de dollars américains des droits de tirage spéciaux de la part du FMI, en plus de la facilité élargie des crédits également de 1,5 milliard en cours de décaissement. Il ne s'agit pas d'une dette, mais d'un appui qui est apporté dans le cadre du renforcement des réserves en devises du pays. Kristalina Georgieva, directrice du FMI, l'a annoncé hier mercredi après des rencontres qu'elle a eues premièrement avec le Premier ministre et le chef de l'État à la Cité de l'Union africaine. La directrice du FMI est en visite de 3 jours en RDC, durant lesquels elle va se rendre compte des réalisations du gouvernement dans le cadre du programme triennal avec le Fonds monétaire international. Reportage de Billy Ivan Lutumba.
La directrice de la FMI a manifesté sa satisfaction du fait que la RDC a une croissance qui est projetée à 4,5% cette année et à 6,4% l'année prochaine. Ceci à la faveur des prix de ses matières premières et des réformes entreprises par le gouvernement avec en tête le président Félix Tshisekedi. Pour Kristalina Georgieva, à la suite donc de ces progrès,
nous sommes encore en train de pouvoir mobiliser environ 100 milliards de dollars auprès des pays avec des réserves de plus. Et les discussions sont en cours pour que la RDC puisse également figurer parmi les pays qui bénéficieraient de ces 100 milliards de dollars que le FMI est en train de mobiliser auprès des économies fortes. Et donc j'étais très intéressé à savoir comment est-ce que son Excellence le Président Tshisekedi entrevoit de pouvoir créer l'environnement favorable au développement des affaires. Et nous avons donc abordé avec les chefs de l'État ainsi que les premiers ministres l'importance de la numérisation du pays, mais également la nécessité de pouvoir améliorer les infrastructures du pays pour appuyer la croissance.
La directrice de FMI a par ailleurs réaffirmé l'engagement de son institution à militer pour que la RDC bénéficie des fonds en contrepartie du service que le pays rend au monde entier à travers le bassin du Congo et sa forêt en absorbant des quantités importantes de dioxyde de carbone.
Merci à vous, Billy Ivan Lutumba. Alki Tengue, est-ce que vous êtes là?
Je suis là.
Bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, je rappelle que vous êtes analyste économique et stratège. Cette émission est une émission pédagogique, donc on vous demandera, n'est-ce pas, d'utiliser des mots simples pour une bonne compréhension. Le FMI promet de décaisser la somme de 1,5 milliard en termes d'appui aux réserves d'échange à la République démocratique du Congo. Alki Tengue, qu'est-ce que l'on peut comprendre par cette promesse du FMI?
En des termes clairs, ça sous-entend qu'en fait le FMI voudrait nous donner de l'argent pour importer des biens, parce que les réserves de change, justement, nous permettent d'avoir la capacité d'importer les biens pour la consommation de tous les jours Et il faut savoir que autant nous en avons besoin, autant ça va nous aider, autant ce n'est pas sérieux pour un pays de pouvoir penser que nous pouvons continuer à importer des biens que nous pouvons produire localement. Ce qu'il faudra arriver à faire avec FMI, avec d'autres partenaires, et peut-être nous-mêmes, c'est de pouvoir financer l'économie domestique, ça veut dire la production des biens chez nous. On n'a pas besoin d'argent, on n'a pas besoin d'appui pour importer des biens que nous pouvons produire chez nous. Et je pense que toute la question des réserves de change sont des questions du commerce international. Un pays qui se respecte est un pays qui a une balance commerciale en sa faveur. Ça veut dire qu'elle exporte plus qu'elle n'importe. Nous, en République démocratique du Congo, nous n'exportons pour 90% de reste que pour le secteur minier. Le reste, on n'exporte quasiment rien. Nous importons tout, y compris les cure-dents. C'est toute la question de choix, c'est toute une question de stratégie, c'est toute une question de politique publique. L'aide internationale, multilatérale et bilatérale est une excellente chose, mais ça devrait aller dans l'investissement et pas dans l'importation. Aujourd'hui, conforter notre position par rapport à notre capacité d'exportation est une chose, mais ça devrait être des solutions à très court terme, parce qu'à moyen et à long terme, il est important que nous soyons en mesure de produire ce que nous consommons et de consommer ce que nous produisons.
Voilà, vous venez de l'expliquer, le FMI nous donne de l'argent pour importer des biens. En nous donnant cet argent, est-ce que le FMI précise, définit les biens que nous devons importer ou le FMI nous laisse libre d'importer les biens selon nos besoins?
Non, le FMI ne nous impose pas, mais le FMI sait très bien ce que nous importons parce que la Banque mondiale, qui est son partenaire, tient les meilleures statistiques du pays et donc on sait pertinemment bien qu'est-ce que nous importons et tout le monde, n'importe quel économiste, sait que la plupart des biens que nous importons, nous aurions bien pu les produire localement. Et ça, ce n'est pas la responsabilité du FMI, c'est la responsabilité de ceux qui ont en charge les politiques publiques en République démocratique du Congo. C'est vrai qu'il faut résoudre des problèmes à court terme, mais il faut résoudre surtout les problèmes de manière durable. On ne peut pas être 61 ans d'indépendance après des gens qui importent la nourriture de base. Nous importons du chinchard, nous importons de la viande, nous importons de l'ail, nous importons de l'oignon, nous importons tout et n'importe quoi. C'est totalement inacceptable. C'est là-bas que nous devons être en mesure d'engager la transformation de notre économie. Quand on dit de notre économie qu'elle n'est pas résiliente, ça veut dire qu'en fait, pour n'importe quel choc, nous pouvons tomber. Quand on dit de notre économie qu'elle est extravertie, ça veut dire qu'on importe trop de choses inutiles. Et il faut savoir que chaque fois que vous importez, vous financez le travail dans le pays d'exportation des biens et donc vous financez le développement là-bas. Il est important que nous soyons en mesure de décider comment nous voulons transformer notre économie et comment nous voulons être en mesure de rétablir les capacités de l'économie congolaise pour les Congolais.
On nous donne de l'argent, n'est-ce pas, pour importer les biens. On sait que les Congos, la RDC, c'est un vaste marché de consommateurs. Hein. C'est environ 80 millions de consommateurs. Et donc, lorsque nous importons les biens, comme vous venez de le dire, en fait, nous sommes en train d'enrichir les entreprises de ces pays-là. Et est-ce que ce n'est pas de l'argent qui nous est donné pour que nous puissions les consommer dans les économies de ces pays? Et de l'argent qui, finalement, ne nous profite pas?
Ce n'est pas de la responsabilité de ceux qui nous donnent de l'argent, c'est notre propre responsabilité. Nous avons des responsables politiques qui sont ici pour opérer des choix pour la République démocratique du Congo. C'est à eux de décider de quelle manière nous travaillons avec les ressources qui sont mises à notre disposition. Encore une fois, quand on dit qu'on va appuyer les réserves de change, il n'y a pas une autre mission que celle d'importer, si ce n'est aussi de voir comment équilibrer les rapports entre le franc congolais et la devise internationale qui se trouve être le dollar. Mais tout le monde sait très bien à quoi servent les dollars, à importer des biens. Et donc, encore une fois, pour que la monnaie locale ait de la place, ce n'est pas en faisant des contreparties avec des dépôts de monnaie étrangère qui sont en fait des prêts, mais c'est plutôt en travaillant ici et en produisant ici, en faisant consommer les produits que nous produisons de notre travail, que nous pourrons être en mesure de changer les choses et pas l'inverse.
Est-ce que le FMI, c'est lui qui prend l'initiative de décider de décaisser des fonds dans un secteur donné ou c'est plutôt la RDC qui présente l'état des besoins à ses partenaires, à ses bailleurs des fonds et que ces bailleurs-là interviennent, réagissent par rapport aux besoins que la RDC ou que nos pays leur présentent?
Vous posez la grande question d'un pays qui n'a pas un plan stratégique de développement cohérent. Pourquoi je dis cohérent? Parce que nous avons un plan national stratégique de développement que personne ne suit. Quand vous regardez le budget, il n'est pas aligné à ce qui est écrit dans le PNSD. Quand vous regardez les dépenses de l'État, ça ne correspond pas à ce qui est dans le programme national de développement. Ça sous-entend qu'en fait, à partir d'un certain moment, nos fragilités viennent du fait des chocs exogènes. Aujourd'hui, le choc le plus grand, c'est Covid. Et tout le monde sait très bien que quand il y a eu cette affaire de Covid, les frontières se sont fermées, nous étions presque en situation de détresse. Et donc, même le chef de l'État à l'époque a sorti un peu d'argent pour qu'on soit en mesure d'acheter des biens de consommation localement. On n'a pas pu parce qu'on s'est rendu compte que nous n'avions pas la capacité de répondre à ce choc. Mais toute la question est de dire, aussi vite que la Covid s'est plus ou moins atténuée, on s'est rendu compte que nous sommes rentrés dans nos très mauvaises habitudes de continuer à importer des biens dont on n'a pas besoin nécessairement et des biens qu'on peut produire localement. Encore une fois, les partenaires qui nous regardent et disent, voici leur fragilité, voici leur faiblesse, et c'est là-bas que je les aide. Et notre faiblesse aujourd'hui, c'est dans notre capacité à provisionner nos marchés avec des biens que nous importons. Et en fait, on nous pousse à l'erreur et nous commettons l'erreur un peu comme des gens qui ne sont pas responsables et ce n'est pas acceptable.
La directrice de cette institution financière a précisé que ce n'est pas une dette, mais plutôt un appui qui est apporté dans le cadre du renforcement des réserves en devise du pays. Monsieur Al-Kitenge, est-ce qu'il y a une contrepartie à cet appui? Vous n'allez pas dire que le FMI donne, mais il n'attend rien de la part de la RDC?
Il ne faut pas être hypocrite entre nous. La réalité, c'est que tous les placements du FMI sont des placements qui, à un moment ou à un autre, ont une contrepartie. Toute la question, c'est quand on dit en français, lorsqu'on vous donne des choses gratuitement, ça veut dire que le produit, c'est vous. Donc, si on considère comme des gratuités, il faut savoir que nous sommes un produit, mais la question, c'est de savoir, nous sommes un produit en quoi? Et donc, je voudrais encore insister, en toute responsabilité, que il n'est pas logique que tout l'argent que nous recevons est aux réserves de change pour le plaisir des réserves de change. Nous, à quoi ça devrait servir, c'est que si nous avons de l'argent, qu'on importe des machines, qu'on importe de la technologie pour qu'on soit en mesure de produire localement et que l'on soit en mesure d'exporter. Voilà ce qui compte le plus. Voilà ce qui peut faire d'un pays un pays. C'est parce que lorsque vous travaillez sur le territoire, vous donnez de l'emploi aux gens, vous leur donnez la dignité, et donc ils peuvent acquérir des biens de première nécessité et des biens d'amélioration de leur standing de vie et donc de leur dignité. Et je crois qu'encore une fois, il ne faut pas chercher des responsabilités à l'extérieur. Nous sommes responsables de nos choix politiques, nous sommes responsables de nos choix de nos politiques publiques.
Peut-on dire qu'avec cette assistance du FMI, le gouvernement congolais peut aussi se permettre de procéder à la planche à billets sans que cela ne puisse provoquer des conséquences néfastes que nous subissons souvent, telles que l'inflation?
Je crois que nous sommes traumatisés de l'époque du président Mobutu et il n'y a aucun lien direct entre la planche à billets et l'inflation. L'inflation est une pression sur le prix. Le prix est déterminé généralement par la loi de l'offre et de la demande. Même si vous avez imprimé des billets, si les biens sont en grande quantité sur le marché, les prix ne bougeront pas. Le pays qui imprime le plus de billets s'appelle les États-Unis d'Amérique. Ils passent leur temps à imprimer des billets pour leur consommation et pour la consommation du monde entier. L'inflation aux États-Unis est plus ou moins contrôlée, elle est plutôt dictée par la loi de l'offre et de la demande et éventuellement les biens dont les Américains ont besoin ne sont pas nécessairement les mêmes que les nôtres. Maintenant, je voudrais revenir chez nous. Si nous désirons réellement utiliser la planche à billets comme étant un des instruments de notre économie, ce qui est tout à fait faisable, il va falloir que cet argent que nous imprimons aille dans les milieux les plus reculés, qu'ils travaillent là-bas, qu'ils passent d'étape en étape. Je veux dire, si vous mettez de l'argent à Calais, ça finira à Bukavu. Quand vous mettez de l'argent à Bukavu, ça finira à Kinshasa. Et mais quand ça commence à Kinshasa, ça va à l'extérieur. Et donc, il faut qu'on soit en mesure de mettre ça sur un circuit vertueux. Et le circuit vertueux, c'est le circuit du travail. Si nous faisons la planche à billets pour, par exemple, acheter de l'or chez les exploitants artisanaux, et que cet or est stocké à la Banque centrale, vous pouvez être sûr que ça ne posera jamais un moindre problème. Si nous tournons la planche à billets et que nous investissons cet argent dans les processus agricoles, dans le fin fond du pays, et que ça finit par alimenter la ville, qui finit par acheter ça, parce que ce sera une contrepartie réelle qui se trouve être le travail, nous n'aurons pas de problème. Par contre, si on fait comme ça se passait du temps du président Mobutu, vous imprimez les billets à l'hôtel de monnaie, vous allez Cato pour aller acheter des dollars, bien entendu, il y aura non seulement un déséquilibre au niveau de la parité de change, mais ça va avoir un impact réel sur les produits, parce que, encore une fois, 90% des produits qui sont ici sont des produits importés, et donc ils sont achetés en dollars, et donc ils s'arriment sur le dollar. Mais si par contre notre production était faite en francs congolais, que notre consommation était faite en francs congolais, bien entendu, nous aurons très peu d'impact sur qui sont issus de la parité entre la devise américaine et la devise congolaise. Et aujourd'hui, si on nous aide à renforcer nos réserves de change, c'est pour renforcer notre capacité à importer. Et encore une fois, là derrière, il y a un piège, et c'est un piège qui devrait nous réveiller sur le fait que nous devrions être en mesure de produire ce dont on a besoin localement. C'est la seule façon de donner du travail aux gens et donc d'alimenter l'économie locale.
Merci Alki Tengue, nous vous gardons encore dans cette émission. Victor Nzuzi, vous êtes paysan et membre du réseau international pour l'abolition de la dette illégitime. Comment vous réagissez à l'annonce de la directrice du FMI de l'octroi à la RDC d'environ 1,5 milliard en termes d'appui aux réserves d'échange?
Merci beaucoup pour l'invitation et je salue les deux co-débatteurs qui sont d'ailleurs des experts. Oui, je suis paysan, je fais partie du réseau Comité pour l'abolition de la dette du tiers-monde. Justement, c'est un peu impressionnant de voir comment le Fonds monétaire international soutient et dans quel secteur. Lorsqu'on parle de 1,5 milliard pour soutenir cette réserve d'échange, elle parle aussi de l'embellie des matières premières, si on a pu faire des progrès. Et je pense qu'il y a un problème chez nous, ces matières premières, nous les vendons à ces prix-là, qui fait qu'aujourd'hui nous pouvons faire aussi des devises. Mais ces matières premières, on pouvait les traiter sur place. Moi, je crois que c'est là où le FMI doit nous encourager, au lieu de faire des réserves d'échange pour importer, comme l'a dit Alki Tengue. Moi, je pense que nos partenaires devraient nous encourager à ces transferts de technologies pour que nous puissions traiter nos matières premières. Par exemple, lorsque le président a parlé dernièrement de l'industrie de batteries à fabriquer pour les voitures électriques et d'autres. Je pense que c'est dans ce secteur-là qu'on doit nous financer, sinon les autres-là, c'est juste de l'heure, s'il faudrait les dire ainsi. Et nous devons importer. Moi, je suis agriculteur. Importer, par exemple, le riz en RDC, ça ne se justifie pas. Nous devons importer la viande, ça ne se justifie pas. Et c'est plus de 2 milliards de dollars que nous dépensons chaque année pour importer des aliments dans un pays où il pleut 8 mois par an et où il y a plus de 70% de la population qui s'occupe de l'agriculture. Donc, sincèrement, ça pose des problèmes. Et même lorsqu'on parle de l'embellie de matières premières, on doit nous soutenir parce qu'on a bien géré, nous réalisons des recettes et consorts. Mais je pense qu'il faudrait souligner qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où le pays a été dépossédé de ses mines au détriment de ses grandes multinationales, sinon d'autres, justement pour l'annulation de la dette. Donc, à l'époque, la GK Mine produisait autant de tonnes de cuivre qui faisait que notre pays pouvait vivre avec la GK Mine, mais aujourd'hui, la GK Mine a perdu beaucoup de ses mines, justement à cause de la dette. Et donc, j'ai dit, le Fonds monétaire qui nous a conseillé lors du point d'achèvement, et aujourd'hui c'est le Fonds monétaire qui vient nous aider, je pense qu'il y a de quoi réfléchir dans notre pays. Il y a d'autres choses qu'on va faire. Après, vous aviez parlé au départ, le reportage a parlé d'1,5 milliard qu'on nous a déjà donné dans le premier programme, mais sachez que c'est le 1,5 milliard, c'est pour 3 ans, et jusque là il y a eu un décaissement, un deuxième décaissement qui doit avoir lieu. Moi, je pense que, sincèrement, pour un pays aussi vaste que la RDC, 1,5 milliard, les gens trouvent ça extraordinaire. Mais 1,5 milliard pour 3 ans, est-ce que vous pouvez faire un peu de calcul? Donc, il faut que les gens commencent à réfléchir. Et aussi, il n'y a pas eu de, c'est un langage diplomatique lorsque Madame Kristalina a parlé de la bonne gestion et tout cela. Alors que, au moment même où elle est arrivée, il y avait débat au Sénat sur le budget, l'utilisation du budget. Et vous savez qu'est-ce qu'on a dit du dépassement, même à la présidence de la République et les autres institutions. Donc, faire le dépassement budgétaire, je sais que les experts disent toujours, oui, économiquement, c'est un problème.
quand on n'arrive pas à respecter les engagements qu'on a pris dans la loi budgétaire.
Problème. Victor Dizi, vous l'avez rappelé, c'est au moment où les acteurs politiques et de la société civile dénoncent les dépassements budgétaires dans certaines institutions politiques de la RDC, que les FMI s'amènent avec beaucoup d'argent, alors que des notoriétés publiques, les FMI est une institution qui a toujours, n'est-ce pas, prôné l'orthodoxie dans la gestion des finances publiques. Comment vous comprenez cela?
C'est pourquoi j'ai dit que c'était juste un langage diplomatique, c'est pour nous maintenir encore dans cette domination des grandes puissances de la dette. Hein. Sachez que les grands pourvoyeurs du FMI et qui ont le droit des veto, ce sont ces grandes puissances, les États-Unis, l'Allemagne, la France et consorts. Donc, c'est quelques grandes puissances. Et aujourd'hui, face à tout ce qui se passe avec la Chine et la Russie, donc ils ont intérêt à pouvoir nous flouer et rester. Sinon, la gestion est calamiteuse chez nous. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Les débats étaient publics au Sénat, au Parlement. Donc, je vois très mal comment le FMI nous félicite pendant que la gestion n'est pas aussi orthodoxe. Donc, il y a vraiment un sérieux problème. Il faut se poser des questions sur l'aide du Fonds monétaire international.
À votre avis, quelles sont les dispositions qui doivent être prises pour que ces sommes ne servent pas à autre chose que les besoins pour lesquels ils ont été décaissés initialement, hein? Vous savez qu'on accuse souvent les dirigeants des pays en voie de développement de détourner à des fins personnelles les ressources que les bailleurs de fonds leur accordent.
Oui, le problème, c'est la justice qui doit fonctionner d'abord. Parce que quand on apprend tout ce qui se passe aujourd'hui avec tous ceux qui ont été impliqués dans des procès, dans des histoires de détournement de fonds dans notre pays, ça fait un peu de la déception auprès de la population. Donc il faudrait que la justice soit réellement une justice qui sanctionne, qui punisse et que aussi au niveau des citoyens, moi je parle des citoyens, moi je ne vois pas les dirigeants politiques, hein, les dirigeants politiques partout lorsqu'il n'y a pas de pression populaire, eh bien, ces dirigeants-là, ils font ce qu'ils peuvent faire. Donc, il faudrait que la population s'éveille. Il faut qu'il y ait cet éveil de conscience dans la population. On parle de fonds qui arrivent. Qu'est-ce qu'on doit en faire? Quel est ce protocole qui a été signé? Et au Parlement, le parlementaire doit nous dire, dans ces protocoles avec le Fonds monétaire international, qu'est-ce qu'il y a réellement pour que la population puisse suivre. Sinon, si c'est réellement pour des importations, c'est pour des importations, parce que quand on soutient les réserves des champs, c'est pour des importations. Et si on doit continuer à importer les riz, alors que Bumba pouvait produire, alors que dans le Manyanga, ici en Koundi, on peut produire le riz, avec les 4 millions d'hectares rizicoles que nous avons, nous importons le riz ou bien nous importons la viande. Moi, je crois qu'il y a de quoi. C'est-à-dire qu'il faut que la population prenne conscience et que la population puisse réellement poser de vraies questions. Et le Parlement doit jouer son rôle. La Cour des comptes doit jouer son rôle. On ne doit pas continuer à nous parler de l'IGF, alors que la Cour des comptes, qui est une cour qui pouvait sanctionner, l'IGF peut dénoncer aujourd'hui, l'IGF doit envoyer dans des tribunaux, mais la Cour des comptes peut directement agir, et la Cour des comptes n'a jamais fonctionné. Donc nous devons travailler avec la population, nous devons travailler avec nos députés, et que les hommes politiques comprennent que ce que le Fonds monétaire international est en train de faire, ou la Banque mondiale, sa sœur, demain c'est la Banque mondiale qui va venir, c'est juste parce que nous avons des ressources, et on voudrait bien que nous soyons dans leur coupe, pour que les grandes multinationales qui sont dans ce pays pourvoyeurs de ces fonds-là continuent à venir piller nos ressources naturelles. C'est ça. Malheureusement, très souvent, nos dirigeants ne comprennent pas cela, ou ils le comprennent, mais voilà, ils veulent faire croire aux gens que nous sommes aujourd'hui fréquentables. Mais fréquentables, comment on doit avoir peur de l'étranger et dire qu'on est fréquentable alors que en interne, la gestion pose problème. Même le Parlement se pose la question sur la gestion des finances publiques. Il y a vraiment un problème. Il y a un problème et donc il faut qu'on prenne conscience.
Fabrice Ngabo, vous êtes chercheur et consultant en fiscalité et finances. Que pensez-vous de cette promesse du FMI à la RDC?
Bonsoir une fois de plus, monsieur le journaliste. Je tiens d'abord à m'acquitter d'un devoir agréable, celui de saluer tous les co-débatteurs réunis autour de ce sujet. D'emblée, je note que des interventions de tout le monde, nous avons compris que aujourd'hui et l'autre pays a un problème financier. Il faudrait qu'on soit d'accord sur cet aspect-là. Et donc, sans moyens aujourd'hui, on se rend compte qu'on a tant promis à la population, mais les actions ne suivent pas. Tout simplement parce que, justement, il n'y a pas de moyens. Alors, pour mobiliser les moyens, on doit compter sur les partenaires notamment les institutions de Bretton Woods dans le FMI, qui promet 1,5 milliard de dollars américains. Donc moi, je me dis, bon, c'est pas mauvais, mais seulement, je vous dirais que je ne suis pas chaud, hein. Moi, je ne suis pas chaud dans cette aide, dans la mesure où je constate que les autorités congolaises, depuis un temps, ont fondé leur espoir pour développer le pays sur les aides, les appuis au budget, alors qu'en réalité, les autres pays, les autres nations qui se sont développées n'ont pas compté sur les aides. Bon, moi, je ne suis pas théoricien de l'endettement, bien que nous considérons qu'à un certain moment, une entité comme un État peut être en besoin de financement, et notamment de financement extérieur et recourir aux partenaires. Mais moi, je me dis, à un moment, les autorités congolaises devraient s'arrêter et réfléchir sur les sources de financement durable. Je pense que les États-Unis, quoi qu'endettés, la Chine et les autres nations, avant de se développer, avant d'émerger leurs économies, ont commencé d'abord à travailler sur leurs propres systèmes fiscaux respectifs. Alors, je ne sais pas si, en obtenant un financement du FMI, que ce soit une aide ou un crédit, vous avez suivi les fois passées comment le Parlement a adopté plusieurs lois portant approbation des accords de financement, différents endettements, n'est-ce pas? Alors qu'en réalité, les autres nations, ce qu'elles ont fait, c'est plutôt travailler sur leur propre système fiscal respectif, de manière à ce qu'elles aient la capacité de lever les fonds considérables dans les économies internes, et naturellement, en cas de besoin, on peut s'ouvrir à l'extérieur. Mais est-ce avec cet argent? Bon, le premier intervenant, il a bien précisé que les réserves d'échange permettent justement d'acquérir les biens et services à l'extérieur, mais aussi, je dois ajouter aussi, le fait que ces réserves permettent aussi au gouvernement d'améliorer la politique, la gestion de la politique monétaire. Bon, moi, je ne trouve pas de mal à cela, mais moi, je me dis, c'est des solutions palliatives. Un État doit plutôt réfléchir aux solutions qui sont durables pour son peuple. Est-ce de cet argent qu'on attendra la solution pour améliorer notre armée afin que les mutineries, la catastrophe qui se trouve à l'Est prenne fin?
Fabrice Ngabo, qu'est-ce qui fait qu'on ne sent pas souvent, n'est-ce pas, l'impact de toutes ces sommes que les FMI, que la Banque mondiale accordent à nos pays? Et peut-on dire que ce sont les pays bénéficiaires qui sont faillibles et qui gèrent mal ces fonds? Ou c'est plutôt la doctrine qui sous-tend ces fonds qui ne permettent pas aux pays bénéficiaires de pouvoir promouvoir leur développement?
La raison principale qui fait que le peuple n'arrive pas à sentir l'impact de ces différents financements sur sa vie, c'est non seulement la gouvernance qui pose problème, n'est-ce pas, mais aussi et surtout c'est la nature de ces financements. La nature, elle est supplétive, plutôt que ce soit un financement qui est orienté vers le développement. C'est-à-dire, si les autorités devraient concevoir l'approche de développement, ils se diraient, mais écoutez, pour avoir les moyens de notre politique, nous allons commencer d'abord à travailler sur notre économie, c'est-à-dire sur le climat des affaires. Les autres nations se développent parce que on a mis un accent particulier sur l'entrepreneuriat, sur l'investissement. Voyez-vous? Alors, quand nous faisons un état des lieux d'investissement dans notre pays, nous nous rendons compte que l'essentiel d'investissement que nous avons aujourd'hui dans RDC, c'est des investissements qui sont étrangers, que ce soit dans l'agroalimentaire, que ce soit dans la grande industrie. Tout l'investissement, disons, l'essentiel d'investissement, il est étranger. Alors comment voulez-vous que dans cette conception-là, nous puissions envisager le développement du pays? Quelqu'un n'a pas posé un problème sérieux du plan développement stratégique. Celui dont on nous parle, moi personnellement, il ne m'a jamais convaincu. La preuve, c'est que lorsqu'il y a chaque année un budget, le budget ne traduit en rien les objectifs de ce plan-là. Et donc, c'est-à-dire, nous sommes comme dans une sorte de navire sans boussole, et ça pose problème. Je ne conçois pas une seule nation qui envisage de se développer sans planification.
Merci Fabrice Ngabo. Nous allons maintenant donner l'occasion aux auditeurs de pouvoir donner leur point de vue par rapport au sujet d'aujourd'hui. Monsieur Alkitenge, vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui est en train de nous appeler depuis la ville de Bukavu au sud Kivu.
Robert Mahomet de Bukavu au sud Kivu. en déclarant qu'elle est 1,5 milliard de dollars américains qu'elle mettra le Fonds monétaire international à la disposition de la RDC en termes d'appui à ses réserves d'échange n'est pas une aide. Je pense que la directrice de cette institution financière internationale est en train de distraire l'opinion. Rien n'étant pour rien en économie, tôt ou tard, ce fonds sera récupéré d'une manière ou d'une autre, cela avec intérêt. Jamais et alors jamais l'Occident ne sera pour le développement des pays du tiers-monde. Sinon, ce serait déroger à ce principe cardinal du capitalisme qui a toujours prôné d'enrichir davantage l'Occident et d'appauvrir davantage le tiers-monde.
Al-Kitenge.
Oui, en fait, ce que le FMI nous dit, c'est que cet argent est issu de la caisse internationale commune, dans ce qu'on appelle les droits des tirages spéciaux, et cet argent peut ne pas être remboursable, mais je le dis encore une fois, à chaque fois que vous avez des choses qui sont gratuites, ça veut dire que vous êtes le produit. Toute la question, c'est vous êtes le produit de quelle manière. C'est comme chaque fois qu'on vous dit WhatsApp est gratuit, mais WhatsApp est gratuit parce que vous faites partie des gens qui s'exposent à de la publicité. Et en fait, tout en bénéficiant de WhatsApp gratuit, vous êtes en train de servir d'appât pour que WhatsApp se fasse de l'argent. Et WhatsApp fait beaucoup d'argent sur cette question. Et donc, encore une fois, moi, je pense que le développement d'un pays ne vient pas de la réflexion et de la stratégie des autres. Les autres, ils ont leurs objectifs et ils défendent leurs objectifs et leurs visions. C'est la responsabilité de notre leadership politique, ceux qui ont en charge le choix des politiques publiques et les choix stratégiques pour être en mesure de nous déterminer de quelle manière nous sommes en mesure de pouvoir sortir de la trappe de la pauvreté pour aller vers la production intensive des richesses. Encore une fois, notre intelligence est la chose la plus importante, notre sens de responsabilité et le soubassement, notre capacité de discipline d'exécution déterminera notre efficacité ou pas.
Al-Kitenge, lorsque les Congolais lambda suivent les images à la télé et voient toutes ces cérémonies qui sont organisées et à l'issue desquelles on annonce ces sommes, ces fonds, lorsqu'ils écoutent la radio et ils entendent, n'est-ce pas, toutes ces informations, la première question qu'ils se posent, c'est quelles sont les conséquences de toutes ces aides et de tous ces appuis sur les sociales des Congolais. À votre avis, ça peut être quoi les conséquences, les retombées de ces appuis sur les sociales des Congolais?
S'il y en avait, quelqu'un les aurait dit. Personne ne dit ce que sera l'impact réel sur le social des Congolais. La seule chose que ça va faire, ça va nous permettre de ne pas tomber en rupture de devise pour importer les impiodis, pour importer la viande, pour importer les poulets qui pourra être donné à la population. Et peut-être qu'en ce moment-là, on peut même dire « Ah oui, mais on a réussi à importer de manière plus efficiente et on a baissé les prix ». Mais ce n'est pas ça la réalité, ce n'est pas ça qui fait le développement d'un pays. Ce qui fait le développement d'un pays, c'est le travail des citoyens. Et pour que les gens travaillent, il faut des investissements. Il faut des infrastructures, mais il faut surtout des gens qui sont formés et qui sont en bonne santé.
Merci. Victor Ndouzi, vous allez aussi réagir à la réflexion de l'auditeur qui a été nous appeler depuis la ville de Kinshasa.
Chikobasa, je vous appelle ici à Kinshasa. Nous saluons ces gestes combien louables posés par notre partenaire FMI. Je pense que ce fonds alloué permettra à notre pays de soutenir l'une de ses actions, de ses projets, telles que la gratuité de l'enseignement qui continue à poser des difficultés, la réhabilitation des infrastructures, la situation salariale des agents de l'État et autres. À mon humble avis, je pense que l'FMI aurait fait sa part. Il reste maintenant à l'État congolais de démontrer sa bonne volonté pour son peuple à sa misère.
Victor Ndouzi, votre réaction?
Oui, merci beaucoup. Je pense que, je ne sais pas, c'est pourquoi je disais il faudrait qu'on voit ce protocole d'accord qui a été signé avec le Fonds monétaire international. Et c'est vrai que le gouvernement, au lieu, par exemple, ce qu'il y a comme fonds dans la gratuité de l'enseignement, au lieu d'aller acheter avec l'impiodi, il va utiliser le fonds du Fonds monétaire international. Mais en réalité, il y a pas de gratuité à soutenir avec ces fonds ou des salaires à soutenir avec ces fonds. Donc le vrai problème que nous avons dans ce pays, nous devons compter sur nos efforts. À l'époque du professeur Luzolo Bambi et professeur Mokoko Samba, qui était vice-premier ministre, ils ont parlé des 15 milliards de dollars qui n'allaient pas dans le trésor public, où l'État n'arrivait pas à les chercher, où les gens empochaient carrément cet argent-là. Vous imaginez, hein? 15 milliards de dollars qui ne vont pas dans le trésor public parce que l'État n'a pas les capacités d'aller les chercher. Et donc si aujourd'hui
nous arrivons à mettre de l'ordre dans nos finances, nous arrivons à mettre de l'ordre dans notre gouvernance, et voilà, nous pouvons nous taper la moitié de cette somme-là.
Et donc, à votre avis, toutes ces aides, tous ces appuis n'ont aucune conséquence, ils n'ont pas de retombées positives sur le social des Congolais?
Mais les retombées positives sur le social, c'est vrai, on va importer le riz, de quelle qualité? On va importer le poulet, de quelle qualité? Est-ce qu'on se pose des questions? Et on a quelle chaîne de foi dans notre pays, avec ce courant qui part, qui revient à tout moment? Donc il faut qu'on se pose des questions. Les retombées, c'est vrai. Et au-delà de cela, il faut voir la qualité de... Enfin, ceux qui nous dirigent, aujourd'hui, les gens n'ont pas peur. Il y a l'IGF qui fait le travail, mais les gens continuent à voler, continuent à détourner. Et ça, c'est un problème. Et même si on parle d'une bonne gestion, aujourd'hui, on a des recettes. Mais on continue à parler de dépassement budgétaire. Il y a quelque chose qui ne va pas dans notre pays. Ce qu'il faut faire, c'est de soutenir notre production locale. Ce qu'il faut faire avec ces institutions, c'est d'avoir des fonds qui soutiennent les investissements. Et ce qu'il faut faire, c'est des dirigeants politiques avec une conscience, alors une conscience, vraiment la vraie conscience, et le peuple qui ne cessera de demander le compte. À ce moment-là, on peut arriver quelque part.
Fabrice Ngabo, vous allez se réagir à cette réflexion de Maître Gilbert qui nous appelle depuis le Congo central, hein, qui pèse au Congo central, et qui dit ceci, aucun pays au monde ne s'est développé grâce à ces institutions dites de Bretton Woods. La RDC a besoin d'un plan de développement similaire à ce qu'était le plan Marshall pour l'Europe, sinon ça sera une façon d'entretenir la misère du peuple de mon pays.
Je suis totalement d'accord avec l'auditeur. Je ne vois pas non plus en quoi ces aides peuvent nous permettre de nous développer, quand bien qu'on n'en a pas encore connu. Il n'y a pas de pays dans le monde qui se sont développés sur base de ça. Et puis, bon, moi je me dis, je crois qu'aujourd'hui l'Afrique doit se retrouver devant ses propres responsabilités. Hein. C'est une question de responsabilité collective, de responsabilité africaine, pour que finalement les concitoyens des États africains comprennent que c'est ce genre d'appui, en fait, il y a un indicateur qui l'a dit, je crois, M. Robert de Bukavu, c'est une forme de distraction, en fait. Hein. On détourne notre attention de l'essentiel. L'essentiel, c'est le développement. L'essentiel, c'est le travail à faire à l'interne sur notre économie. L'essentiel, c'est de confectionner des plans orientés vers le développement de nos entités qui intègrent nos problèmes, qui intègrent les objectifs suivant les contextes et réalités de notre propre pays. Je doute fort si mon pays manque 1,5 milliard de dollars américains pour financer ces différents besoins. Je doute fort. Nous avons un potentiel fiscal immense, énorme, mais ce qui pose problème, c'est simplement l'absence d'une intelligence politique pratique capable de pouvoir exploiter les potentiels que nous avons.
Merci, nous sommes à la fin de l'émission. Al Kitenge, nous allons conclure. Quand on suit les analyses des uns et des autres dans cette émission, on se rend compte que l'idéal, c'est de promouvoir la production nationale, c'est de créer notre propre économie. Mais dans un contexte où la logique qui prévaut, c'est celle d'assister les pays en voie de développement, de les encourager à pouvoir importer. Et vous pensez que dans un contexte comme celui-là, ces pays qui nous aident pourraient un jour nous encourager si nous prenons l'initiative de pouvoir développer nos économies, de pouvoir promouvoir notre production? Est-ce que dans ces contextes-là, il est facile pour la RDC de pouvoir relever les défis? Al Kitenge? Voilà, Al Kitenge, on va essayer de les rappeler. Monsieur Victor Nzouzi, est-ce que vous pouvez répondre à cette question-là?
Ils ne vont pas nous encourager, c'est à nous de nous faire violence. Aujourd'hui, nous avons... À quoi servent les universités que nous avons? À quoi ça sert? Et nous cessons de crier, c'est plus de 60 ans d'indépendance, mais nous devons prendre conscience. Le Fonds monétaire international, c'est ce même Fonds monétaire international et la Banque mondiale qui nous ont amenés là où nous sommes aujourd'hui. C'est vrai que Al Kitenge disait qu'il ne faudrait pas culpabiliser simplement ces gens-là et ces institutions, il faut que nos dirigeants prennent conscience. Mais comprenez comment ils nous ont pressés à l'époque du programme d'ajustement structurel, à l'époque de la guerre froide. Ce sont ces mêmes institutions-là et ces mêmes grandes puissances qui nous ont endettés, qui nous ont même privés de nos mines. Aujourd'hui, la Gécamine a été décapitée. Aujourd'hui, la MIBA a été décapitée. Donc il faudrait que les gens prennent conscience. 1,5 milliard de dollars pour 3 ans, le premier lot qu'on nous a donné là pour 3 ans, vous calculez, ça fait juste 500 millions de dollars par an. Pendant que dans le grand rapport sur notre économie, le pillage de nos ressources, je dirais sur nos recettes, nous disons que nous perdons 15 milliards de dollars de recettes qui ne vont pas dans les caisses, dans les trésors publics. On peut relire ce rapport avec Mokoko Samba. On peut le relire et voir comment récupérer ces 15 milliards de dollars ou récupérer ne fût-ce que la moitié. On n'aura plus besoin de tous ces comptes. Et s'il faut arriver aussi à taxer ces entreprises, ces grandes multinationales qui viennent prendre notre cobalt, qui viennent prendre nos matières, nos terres rares là, si on peut les taxer comme il faut, moi je crois qu'on n'aura même pas besoin de ces 500 millions de dollars par an.
Merci Fabrice Ngabo. Votre conclusion aussi, comment la RDC pourrait-elle relever ces défis de promouvoir sa propre production, de mettre en place sa propre économie?
Si aujourd'hui on se décide, plutôt que d'exporter les matières premières brutes, de les transformer localement, on va créer plus de valeur ajoutée, on va créer plus de richesses. On ne parlera plus jamais des budgets, je vais dire, à la limite même ridicule, d'ignare et en deçà. Et là, on peut rassurer du moins. Alors, pour y arriver, il faut passer par des approches qui sont convaincantes. D'abord, un État, j'insiste, un État ne peut pas se développer sans planification. Et si nous avons une planification stratégique, nous devons avoir chaque année un budget qui est cohérent, un budget dans lequel on voit les objectifs stratégiques être traduits en objectifs à court terme. Et là, au moins, on peut avoir l'espoir que ce pays est mené dans une bonne direction. Mais bien au-delà de tout ça, je pense qu'il y a 4 piliers sur lesquels aujourd'hui les dirigeants doivent s'appuyer. Le premier pilier, c'est quoi? C'est la sécurité. Or, la sécurité nous ramène toujours aux moyens financiers. Parce qu'il faut des moyens pour recruter un effectif qu'il faut pour la taille de la population congolaise. J'insiste, on ne peut pas avoir une armée pour sécuriser la population. Deuxième pilier, ce sont les infrastructures. Nous devons avoir des infrastructures adaptées. Encore une fois, la question des infrastructures se réfère aux moyens financiers. Et les infrastructures, c'est-à-dire les infrastructures hydroélectriques, nous devons avoir le courant disponible pour pouvoir faire tourner l'industrie congolaise. Nous devons avoir l'eau, nous devons avoir les routes qu'il faut pour pouvoir récupérer tout ce qu'il y a comme matière première, tout ce qu'il y a comme récolte dans les milieux ruraux vers les grands centres de consommation. Troisième pilier, c'est l'éducation. Nous devons avoir une éducation de qualité qui permet aux Congolais de réfléchir sur leur avenir, qui permet aux Congolais de réfléchir sur les possibilités de transformation de leurs ressources, de leur potentiel en ressources, en richesses éthiques. Et le dernier pilier, c'est la santé. Or, malheureusement, sans moyens, on ne va pas réussir. D'où la nécessité pour le gouvernement de procéder par les réformes fiscales structurelles nécessaires pour pouvoir lever les fonds
conséquents
et ne plus continuer à attendre des sommes modiques en termes d'aide et nous assumer en tant que peuple.
Alki Tengue, nous allons aussi conclure avec vous. J'ai posé la question de savoir, dans un contexte où la logique qui prévaut, c'est celle d'assister les pays et de les encourager à importer, est-ce que dans ce contexte-là, il est facile pour un pays comme la RDC, et qui a comme défi à relever de promouvoir sa production, de créer sa propre économie, est-ce que dans ce contexte-là, la RDC pourrait facilement relever ces défis-là?
Je pense que c'est à notre portée, et nous avons un chef de l'État qui nous a promis de favoriser l'économie domestique. Et nous avons une loi qui détermine que même dans les grandes entreprises, la sous-traitance devrait être donnée aux Congolais. Et en totale contradiction avec une autre réglementation des marchés publics qui dit que dès que vous avez dépassé 250 000 dollars, vous devez aller sur un appel d'offres international. C'est toutes ces choses contradictoires qu'il faut être en mesure de nettoyer et se doter des mécanismes pour être en mesure de produire et distribuer les richesses chez nous. Mais encore une fois, il n'y a aucun progrès qui peut réellement être durable s'il n'est pas planifié. Je dis depuis plus de 15 ans qu'un pays sans plan stratégique de développement sur un horizon minimum de 20 ans ne peut pas se développer, et c'est le cas de la RDC. Et aujourd'hui, nous avons des leviers. Le plus grand levier que nous avons, c'est l'énergie électrique propre. En ce moment de transition écologique, nous avons là un levier extrêmement important. Mais tout ça n'est possible que lorsque vous avez des hommes de qualité qui sont bien formés, mais également des gens qui sont en bonne santé. C'est pour ça que l'investissement majeur doit être sur l'homme. Et nous, en tant que pays, on est sous-endettés, nous devons être en mesure de nous endetter, non pas pour consommer, mais pour investir et être en mesure de produire de manière rentable. Et ça, encore une fois, c'est un choix politique. C'est un choix de politique publique.
Merci à Alki Tengue, Victor Nzouzi et Fabrice Ngabo d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci aussi à Polydor Basunga Nyuki qui était à la technique, à Dona Madimba qui a réalisé cette émission sous la supervision de Suzanne Zobo, à la présentation Guy Maté. Merci une fois de plus et bonne suite au programme sur Radio Capi.